Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs du BMC, Berserkers Media Chronics. Bienvenue à tous, je suis l'ours Martin et je vous accueille aujourd'hui en compagnie de mon cher ami, Maître Corbeau. Bonjour, Maître Corbeau.
Bonjour, très cher ours.
Voilà, bah ça me fait plaisir de te parler. Ça fait
Ça fait
longtemps qu'on
très
s'est pas eu
longtemps,
en.
très très longtemps.
Voilà, on profite qu'on n'est pas avec Nostalgique ce soir. Non, je plaisante, hein. Je sais qu'il va écouter et ça nous fera plaisir de l'avoir. Mais voilà, aujourd'hui, on est réunis ensemble. On va se faire une petite émission tranquille à deux. Et puis pour vous aussi, on va parler ensemble de trucs de vieux. Voilà, de vieux réacs qui aiment bien dire que c'était mieux avant.
Mais c'était mieux avant.
Et voilà, puisque c'était mieux avant. Entamons cette petite série d'émissions qu'on a prévu de faire sur divers sujets avec aujourd'hui les super-héros qui étaient mieux avant. Ça ne vous a pas échappé, depuis quelque temps, nous sommes littéralement noyés sous les productions de Marvel, également un petit peu de DC Comics qui essaye de rattraper l'énorme machinerie mise en place par Disney. Les gens ne suivent plus trop. On en a un petit peu marre de tous ces héros, fussent-ils bien écrits ou bien produits. Eh bien, nous nous sommes dit, bah, qu'est-ce qui existe en dehors de ça, au cinéma, en bande dessinée ou également sous d'autres supports. Eh bien, voilà, dans ce format, nous allons vous présenter une petite sélection de notre crue, pas forcément récente, mais en tout cas suffisamment plaisante pour que vous le découvriez ou redécouvriez. Puisqu'il y en a certains qui probablement ne vous seront pas inconnus. Alors, mon cher ami Corbeau, pardon. Ben, commençons. Avec quoi es-tu venu
Alors
aujourd'hui?
déjà, pour commencer, je suis venu avec le film Incassable. Alors,
Ah,
on va commencer
Est-ce
par quelque chose de bien, une belle entrée en matière, hein. C'est quand même un film qui est très très propre, qui est très très bien tourné. Personnellement, je pense que c'est le chef-d'œuvre de M. Night Shyamalan. Donc, c'est un film de super-héros. Mais voilà, on n'est pas avec des fonds verts, on n'est pas avec des effets spéciaux qui vous en mettent plein vue. On a juste l'histoire, la genèse d'un super-héros, mais sans esbrouffe, très très ancré dans le réel, quoi. Certains avaient beaucoup aimé, par exemple, chez Batman de Nolan, justement, que son Batman soit très ancré dans le réel. Mais alors là, si on peut dire, la version de Night Shyamalan, elle est extrêmement, voilà, très terre à terre, quoi. On n'a pas de démonstration visuelle extrêmement extrêmement forte. Il y a quelques moments où le héros, on voit qu'il a une sorte de sixième sens, on sait qu'il est très fort, mais voilà, il n'y a pas de aucune esbroufe. Ça reste très très maîtrisé, très très calme dans la façon de dérouler l'histoire du super-héros. Mais c'est extrêmement bien monté. C'est un film qui date de 2000, donc il y a déjà plus de 22 ans. Un magnifique rôle déjà de Bruce Willis. Hein. Tous ceux qui ont vu les derniers films de l'acteur, bon, on sait qu'il a une maladie depuis, mais qui ont vu les derniers films de l'acteur peuvent sentir le fossé entre ce film et ses dernières prestations.
C'était hélas pas trop sa faute,
C'était pas
hein,
trop sa
ses
faute, c'est vrai.
prestations.
Mais bon, quand il allait mieux, il a quand même tourné dans des productions qu'on sentait plus. Comment dire? Vraiment, dont les considérations financières, à mon avis, l'ont plus tenté que la profondeur du scénario.
Oui, sûrement.
Voilà, donc Incassable, qui est simplement l'histoire de David Dunn, donc Bruce Willis, qui est gardien de sécurité dans la ville de Philadelphie. Et à suite d'un accident de train, il finit par comprendre, en se remémorant sa jeunesse, sa vie, qu'il ne s'est jamais fait mal, qu'il n'a jamais souffert d'aucune blessure. Et il finit par comprendre, comme l'indique le titre, qu'il est quasiment indestructible. Bon, bien sûr, comme tout héros, il a des faiblesses, notamment lui, c'est la peur de l'eau. Il va se retrouver face à son ennemi, qui est Samuel L. Jackson, hein, qui est un handicapé, qui souffre d'un maladie des os de verre, et qui en fait se révèle à la fin du film comme étant le super vilain qui organisait de nombreux accidents dans la ville pour un peu se venger de sa condition, mais aussi comment dire, il se venge de sa condition, mais aussi il se trouve ainsi une place dans la société par son rôle de super vilain. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le film. Je pense si tu as quelque chose à rajouter, à part, ouais, peut-être, voilà, c'est un duo magnifique, hein, Bruce Willis, Samuel Jackson, hein, ça envoie du lourd, quoi, hein,
Effectivement.
ça nous renvoie comment dire, ça nous en renvoie à Die Hard, Die Hard 3, hein, c'était leur dernier duo ensemble, et bon, on les remet et ça nous fait un nouveau chef-d'œuvre.
C'était tout à fait. Hein, je repense à ça. Il y a déjà 3 ans maintenant, on avait fait une émission sur Shyamalan et l'un de nos invités avait lui totalement décortiqué. Le film Incassable, une scène en particulier, et pourquoi est-ce que c'était vraiment le chef-d'œuvre du réalisateur. Il y a effectivement ce côté, en même temps, on a des super pouvoirs, mais en même temps, on est un peu un real-life super-héros.
C'est ça.
Et c'est. Il y a surtout tout un cheminement de la personne qui, tout simplement, ne veut pas croire. Et ne peut pas croire, parce qu'elle n'est pas prête à croire que les super-héros existent, alors que de l'autre côté, en fait, on a son parfait némésis qui est là pour le pousser à finalement avoir cette posture. Ce qui est intéressant, c'est que ce film, comme pas mal d'autres choses, est devenu une trilogie,
Oui.
alors que ça n'était pas prévu pour l'être. À l'heure où beaucoup de franchises de super-héros lance un premier épisode pour faire un setup et ensuite déroule une histoire cousue de fil blanc. Là, l'histoire se tenait seule et c'est au détour d'un autre film de Shyamalan,
Oui.
Split, que à la toute fin, dans une scène au générique final, tout comme dans tout bon film de super-héros moderne qui se respecte, on voit apparaître un autre personnage. Donc, notamment Monsieur Glass et puis Bruce Willis surtout qu'on se dit ah voilà il y a peut-être un Incassable verse
C'est ça.
et là ça nous a donné voilà une sorte d'apothéose finale avec le film justement Glass
C'est ça.
sorti peu de temps après et moi c'est des films que je conseillerais tous les deux en plus de voir Incassable évidemment voyez Incassable en premier. Parce que celui-là est vraiment
Alors, je
indispensable.
peux rien dire parce que j'ai pas vu Glass. Je sais pas. J'avais l'impression comment dire, justement, d'une création d'un univers incassable, un petit peu au forceps. Alors pourtant le film.
En fait, il y a il souffre principalement du fait que c'est censé reposer sur trois personnages, donc un Incassable, Split et Glass. Et le problème, c'est que là où il y a Split et Glass qui assurent complètement leur rôle, notamment parce que les acteurs sont absolument merveilleux, ben le problème, c'est qu'Incassable, qui doit être incarné par Bruce Willis, l'est dans ses dernières années de carrière, où ben, à l'époque, on pensait qu'il s'en foutait un petit peu, sauf qu'en fait, aujourd'hui, on sait commençait déjà à être atteint d'une maladie dégénérative. Qui faisait qu'il n'avait plus la même forme pour performer, qu'il retenait peut-être un peu mal ses critiques, enfin ses répliques plutôt.
Oui.
Et de toutes les manières, c'est ça, voilà, il n'avait plus l'énergie qu'il avait avant face à la caméra. Et c'était moins une raison de l'âge plutôt que de la maladie. Et ça se voit, en fait, il passe tout le film un petit peu en veilleuse, surtout face aux deux autres. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Voilà.
Très bien.
Donc, mais le film est tout à fait recommandable parce que, voilà, on a Samuel Jackson qui il est présent. On a tout ce qu'il faut. On a vraiment tout ce qu'il faut. On retrouve des personnages qu'on aime bien, un univers qu'on aime bien. Avec Split, Shyamalan est sorti de ses errements qu'il a pu avoir avant. Ou en tout cas peut-être du film que des gens qui n'aiment pas le réalisateur n'ont pas compris, et surtout n'ont pas compris que c'était un réalisateur qui a eu ses films à la fois personnels et puis qui a eu des films qu'on l'a forcé à faire. Alors, je pense notamment à After Earth. Et voilà. Voilà, là, il était phagocyté par la figure christique de Will Smith et surtout de son fils. Donc, non, non, Shyamalan est revenu de cet enfer-là, de Avatar, Dernier Maître de l'Air, qui, pareil, ne savait pas faire parce que c'est tout simplement pas son travail de faire des films comme ça. Et là, ouais, avec Split et Glass, il est vraiment revenu à ce qu'il savait faire. Donc, ouais, je pense, voyez-les, ça pourrait être une très bonne expérience en plus d'incassable.
C'est noté, c'est noté. C'est vrai que Split est de 2017 et Glass est de 2019. Donc 2019, ouais, je pense que Bruce Willis, il commençait à avoir
On
des,
entrait dans la période des DTV.
ouais, période DTV. Puis ouais, il était déjà, ouais, c'est ça. Il avait ce côté complètement à l'ouest. Je ne sais pas s'il avait commencé là ou s'il y avait des prémices, mais ouais.
Ah, ouais, il y a des. Ce qui se disait à l'époque, enfin, que depuis déjà ces années-là, qu'au moins depuis 3-4 ans, il devait avoir par exemple des oreillettes
Pour retenir
pour
son
pouvoir
texte, oui.
pour lire son texte, dire ses répliques, que il pouvait pas courir, faire des efforts, des choses comme ça, que même il était essoufflé et qu'il devait y avoir un cut tout le temps entre chacune de ses répliques pour avoir un semblant de diction normale.
Ah oui, c'est chaud pour tourner un film, et ouais. Bah, si tu veux faire un plan long pour essayer de, comment dire, faire monter de la tension, c'est que tu surcoupes parce que l'acteur peut pas jouer, c'est sûr que ça plombe complètement ta mise en scène. Voilà.
Voilà. C'est pour ça même que sur la fin, ce qui se dit aussi, c'est qu'il a profité un maximum aussi de son image pour de l'argent pour sa famille, tout simplement, parce qu'il est reparti s'installer auprès de sa famille et il a gagné le maximum d'argent qu'il a pu aussi pour lui et pour leur léguer derrière. Mais à la fin, il a vendu son image à tous ceux qui pouvaient, même les gens qui lui proposaient de faire du deepfake, notamment des Chinois. Où là, bah, il pouvait jouer toutes les scènes qu'il voulait, même les longues, parce que tout simplement il prêtait son visage et que c'était un ordinateur qui le mettait sur un autre acteur qui parlait à sa place, quoi. Donc, une triste fin de carrière pour Bruce Willis, mais bon, voilà, voyez
Oui,
Incassable.
pour voir un Bruce Willis en pleine forme dans un rôle absolument
Voilà.
formidable dans un très très grand film, vraiment.
Probablement le. Un de ses deux, trois meilleurs rôles de sa carrière,
Exactement,
probablement.
franchement. Et puis c'est vraiment un film qui a quand même plutôt, voilà, qui est quand même plutôt reconnu. C'est pas un film Incassable, n'est pas un film oublié, hein, faut quand même être honnête. Et puis justement, quand on voit, comme on disait au départ, l'univers Marvel et tout ce qu'il a généré, hein, là, comment dire, l'action, la tension est vraiment générée par la mise en scène et pas par des effets spéciaux ou des, comment dire, des interventions de héros plus colorés les uns que les autres. Donc c'est vraiment une autre manière de voir un film de super-héros, quoi. C'est extrêmement extrêmement malin, hein. Là aussi, Shyamalan était réputé pour ses films à twist. Là, c'en est un en plein, hein. On a un twi le twist final, quoi. Mais voilà, tout est très bien amené. Et même si on n'aime pas Split ou Glass, ce film en lui-même se suffit. Est absolument merveilleux et faut l'avoir dans sa vidéothèque. C'est vraiment un incontournable, quoi.
Tout à fait. Bien. Bah écoute, sans plus de transition, restons dans la catégorie des super-héros qui ont des super-pouvoirs. Mais qui sont plutôt axés real life super-héros.
Oui.
Sauf que moi, je vais partir dans un côté à l'opposé, en tout cas en matière de traitement, puisque là où Incassable était très dramatique, très sérieux, moi, je vous emmène dans un monde ultra coloré, ultra délirant, totalement outrancier. Je vous parle de Mystery Man. Mon cher Corbeau, est-ce que tu connais Mystery Man?
Oui, je connais. Alors, je donne mon avis tout de suite ou je te laisse d'abord parler?
Ah, bah écoute, je vais d'abord parler un petit peu. Alors, Mystery Man, c'est un film sorti en 99, donc voilà, qui a maintenant 23 ans, et qui s'est fait remarquer par son immense échec commercial. Effectivement, c'est un film assez particulier, c'est un film de super-héros où les super-héros n'en sont pas vraiment, sont plutôt un peu tous des super tocards. L'histoire, je vous la fais courte. Nous sommes dans une ville qui s'appelle Champion City, voilà, qui ressemble d'une inspiration qu'on pourrait être de Gotham City. Vous prenez un mélange de Dark City, Gotham City, c'est très très gothique dans le style. La ville est protégée par un super-héros qui s'appelle Capitaine Admirable, qui est en fait un super tocard. Il est vraiment très fort, mais en fait, c'est un milliardaire. Alors voilà, bon, inspiration Batman, bien évidemment. C'est un milliardaire qui est super-héros la nuit. Sauf que vous pourriez le croiser un peu avec le Homelander de The Boys. C'est-à-dire qu'il aime autant se faire mousser et plaire à ses sponsors que faire la loi. Donc son costume, par exemple, est bardé de logos de sponsors. Voilà, il a Pepsi sur les épaules, Pennzoil sur le torse. Enfin voilà, c'est. Et c'est. En fait, c'est une grosse merde. Voilà, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une grosse merde. Qui adore s'entendre parler. Et ce gars-là, eh bien, en fait, fait des émules. Dans la ville, il y a plein d'autres personnes qui se disent qu'ils veulent être super-héros aussi. Certains avec des super-pouvoirs et d'autres pas. Certains sont persuadés d'en avoir, alors qu'ils n'en ont pas. Et ben, dans tous ces héros-là, on va suivre l'histoire de Ben Stiller, qui est alias Monsieur Furieux. Son super-pouvoir, c'est d'être tout le temps énervé. voilà. Il y a accompagné du fakir bleu, qui a la particularité de ne pas être bleu, mais habillé en vert. Et qui. Son super pouvoir, c'est de savoir lancer des couverts, des fourchettes, des couteaux. Ah non, il lance pas de couteau, attention, il lance des cuillères.
L'argenterie de sa mère, voilà.
Et l'argenterie de sa mère, exactement. À eux se joignent l'appel. Voilà, un homme qui a la particularité d'avoir un coup de pelle implacable, mais seulement des pelles. Il ne s'est pas frappé avec autre chose, mais seulement avec des pelles. Et ces trois-là se disent que, ben, merde, Capitaine Admirable, il a arrêté tous les super méchants. Faudrait se faire un petit peu une place au soleil, que les projecteurs soient braqués sur eux. Et donc, ils essayent tant bien que mal, ils se disent. Bon, on va essayer de recruter toute une équipe de super-héros avec nous. Donc, ils vont recruter quelques bras cassés avec eux. Et dont un mec dont le super-pouvoir est le plus claqué au sol de la Terre, c'est qu'il peut se rendre invisible, mais seulement quand les gens ne le regardent pas. Voilà, pour vous donner le niveau de l'équipe. Et au final, donc ces espèces d'Avengers de prise unique se disent que bah, leur chance finit par tourner parce que un jour, justement, Capitaine Admirable disparaît. Pile au moment où son ancien ennemi mortel refait surface, est sorti de prison, enfin d'asile, donc qui ressemble beaucoup à l'asile d'Arkham. Et ce super méchant, qui est joué par Geoffrey Rush, a décidé donc de mettre à nouveau toute la ville à ses pieds, mais sur son chemin, il trouvera donc les Mystery Men qui vont essayer de l'arrêter. Et alors, un dernier point pour vous donner l'eau à la bouche. Donc, ce super méchant joué par Geoffrey Rush s'appelle Casanova Frankenstein.
C'est magnifique.
Est une espèce d'allemand, de caricature d'allemand, de savant fou, avec l'accent allemand qui va avec. Et voilà, c'est délectable. C'est délectable. Je vais m'arrêter là, après on en parlera un petit peu plus, mais déjà je vais demander à Corbeau, puisque apparemment il l'a vu.
Oui.
Qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors j'étais assez dubitatif. Je suis pas un grand fan de Mystery Man, et pourtant, comment dire, je pense qu'il a des problèmes de rythme, hein, de comment dire. Pourtant, il y a du bon, hein. Déjà, le, comme tu dis, Captain, oui, c'était le capitaine admirable. Oh la vache, le boulet, quoi. Oui, c'est le milliardaire égocentrique, con comme la lune. Il est magnifiquement joué par Greg Kinnear.
Ouais.
Il, voilà, c'est brushing impeccable, sourire émail diamant, voilà, avec un ego boursouflé. Voilà, en fait, j'aime beaucoup Mystery Men pour certaines prestations d'acteurs. Ben Stiller en Monsieur Furieux. En Kazaria, qu'est-ce que j'aime en Kazaria, en Fakir
Ah,
Blanc.
il est très fou, ouais.
En Kazaria, je l'aime pour ses rôles. Il fait souvent des tocards, mais je l'aime aussi pour comment dire, ses doublages. Voilà, l'acteur, il est quand même très très bon.
Oui, il double beaucoup des personnages des Simpsons,
Notamment, oui,
notamment.
c'est un grand doubleur. Et puis, il a quand même fait une carrière où il fait souvent des personnages plus trop drôles. Enfin, j'aime bien son humour, quoi. Et puis, je pourrais rajouter aussi, comment ça s'appelle? Il y a William H. Macy, l'appel. Hein.
Oui,
Voilà,
ouais.
c'est, en fait, c'est ça mon problème, c'est qu'il y a quelques bons personnages, voilà, mais l'humour, il est un peu à la traîne, quoi. C'est, t'as l'impression qu'ils ont réuni des figures, ils ont trouvé des personnages qui étaient drôles en eux-mêmes, mais ils n'arrivent pas à lier tout ça dans une histoire. Donc moi, je suis un peu plus dubitatif sur ça, même s'il y a des moments extrêmement drôles. Entre l'autre qui arrête pas de dire Captain Admirable, c'est Lance Hunt. Hein, l'autre, il dit, mais non, tu vois bien qu'il a des lunettes, etc. Voilà, c'était la blague par rapport à Superman, que plus personne ne reconnaît dès qu'il a des lunettes, quoi. Voilà,
C'est ça.
y a plein de petites. Il y a quelques petites
Il y a un peu
perles.
des blagues
Voilà,
méta,
il y a
ouais.
quelques petites perles comment dire, dans ce film. Mais je trouve que le lien est pas fait. L'histoire, malheureusement, tient pas. Si, moi, il y a un passage que j'aime bien, c'est le recrutement des super-héros dans leur jardin. Alors ça, franchement. Il y en a une, elle a ses super-héros, mais elle a des super-pouvoirs uniquement quand elle a ses règles. Je crois que j'en
Oui,
avais les larmes aux
c'est ça.
yeux, tellement je trouvais ça con, mais que j'avais trouvé l'idée géniale, quoi. Donc voilà.
C'est ça. Ils lui disent, mais il y a un problème, et tout de suite, elle s'énerve, elle leur dit d'aller se faire foutre.
C'est ça.
C'est
Et
génial.
donc voilà, mais c'est un film qui. Ben, c'est dommage parce que je trouve que c'est un film, malgré tout, qui peut se voir, et puis ça a été tenté. Voilà, des fois tu tentes un film et puis tu te gamelles, ça arrive. Mais je trouve que c'est bien de tenter parce que là aussi je reviens toujours à ce que je disais sur Marvel, c'est eux ils tentent plus rien, ils appliquent une recette et t'as leurs téléfilms friqués qui sortent à 200 millions de patates, voilà, qui en ramènent 4 ou 5 fois plus. Donc tout le monde, enfin Disney est content, hein, ça je les comprends en même temps. Mais voilà, derrière, la recette. Voilà, c'est comme bouffer toute la semaine au McDo, quoi. Au bout d'un moment,
C'est ça,
t'es un petit
c'est
peu
ça.
fatigué, t'aurais envie d'avoir un petit peu de plaisir, quoi.
Exactement. Alors, le film a effectivement été difficilement reçu, mais comme tu dis, parce que il était présenté comme une comédie, ce qu'il est finalement. Mais c'est pas un film qui, pour moi, cherche à être drôle, dans le sens, c'est un film qui cherche plutôt à être loufoque. Tu vois, il y a l'esthétique est aussi assez particulière, j'allais dire, elle est très gothique. La manière dont il est filmé, il est tourné comme un clip. Vous avez surtout dans on va dire les premières 45 minutes, un surabus de caméra en courte focale, filmé en gros plan, avec voilà la caméra désaxée. Ça peut donner la gerbe à celui qui n'est pas habitué, mais ça fait partie du truc. On est clairement dans. Vous pouvez être dans un. Voilà, vous êtes dans un rêve. Vous êtes carrément dans un rêve. On est dans un monde qui n'existe pas, ultra coloré, avec un esthétique ultra pulp. C'est complètement. Ouais, c'est complètement fou.
Ah, c'est ça,
C'est
c'est l'esthétique
très
pulp. Par
décalé.
certains côtés, ça me faisait
Ouais.
penser à. Ça m'a fait penser à, par certains moments au film Dick Tracy et même à comment s'appelle The Shadow, dans le
D'accord,
style.
ouais.
Bah, c'est pas, bien sûr, ça se passe pas aux mêmes époques, mais voilà, dans la façon de l'histoire, le décor en général, il y avait cette petite patine un peu que j'aime plutôt, quoi. Voilà, c'est plus une impression, hein, c'est pas des films évidemment identiques, mais c'est dans ce même type d'univers, quoi.
Non, c'est très voilà, il faut vous dire que Quand vous, moi, ce film, je l'ai découvert en étant prévenu de ce que j'allais trouver. C'est-à-dire que au début, je me disais, ouais, bah, une comédie de super-héros avec Ben Stiller. En plus, c'était l'époque Zoolander que j'ai adoré aussi, mais vraiment par son côté niais, con, quoi. Alors, je me suis dit, bah, je vais voir un film juste con avec des mecs cons. Mais en fait, au final, pas tant que ça. Et c'est vraiment plus parce que quelqu'un m'a dit, attention, ouais, Mystery Man, c'est cool, mais faut le voir pour son esthétique. Faut voir pour son esthétique et pour la loufoquerie, pour ses côtés, voilà, pour ce truc complètement pété. Un petit peu comme la série française Fauché, là, Hero Corp.
Oui.
Voilà, avec des super pouvoirs complètement cons qui servent à rien. Bah, c'est exactement la même chose. Là, en plus de ça, on a quelques belles tronches d'acteurs. On a aussi quelques personnes qui viennent faire du caméo, voire un petit peu plus que du caméo. Et c'est cool. Il y a Michael Bay
Oui.
qui joue un chef de gang de bad guy, des fuckboys, voilà, des super méchants fringués comme des gars des facs. Il y a le gang des mecs habillés comme des rappeurs, le gang les disco boys, ils sont tous habillés comme du disco, et ils se battent en dansant le disco. Voilà, dites-vous, c'est ce genre de choses débiles. C'est vraiment débile. Mais dans ce sens-là, c'est drôle. Ne le voyez surtout pas comme si ça devait être une histoire sérieuse. Voyez-le comme une bizarrerie. Et surtout, voyez-le comme des mecs qui ont tenté, des mecs et surtout qui se sont pas pris au sérieux en le faisant. Je pense qu'ils ont dû quand même beaucoup s'amuser en tournant ça. Et puis moi, il y a mon bonus qui m'a fait rester jusqu'à la fin, c'est Geoffrey Rush en Casanova Frankenstein.
Oui.
Voilà, c'est jusqu'au bout il est outrancier. Jusqu'au bout, il a un accent allemand. On est à deux doigts du racisme. C'était encore l'époque où il n'y avait pas de. Même les blagues, hein, même les réflexions. Disons qu'il y a. Voilà, le politiquement correct est un petit peu absent du film.
Oui.
On est.
Oh, et puis de toute
voilà,
façon, on a
vous.
le droit de se moquer des Allemands, hein, faut pas déconner.
Eh ben, il y a ça, voilà, vous pouvez vous faire plaisir. On peut se moquer. Alors, quand ils recherchent notamment des femmes. Quand ils font passer les castings du super-héros, il y a une nana qui est habillée en Wonder Woman, hein, vraiment en Wonder Woman, c'est-à-dire que DC pour leur faire un procès. Et une nana habillée en Wonder Woman qui arrive, il y a une deuxième qui est habillée en Wonder Woman qui arrive, et elle voit qu'elles sont habillées de la même manière, et tout de suite, elle commence à se taper sur la gueule, à se bagarrer. Et voilà, dans un jardin au bord d'une piscine, et évidemment, il y a tous les mecs autour qui regardent, et personne ne les empêche de se battre.
C'est ça.
C'est ça. C'était l'époque où on se permettait encore de faire ça dans un film qui passait a priori pour tout public. Donc voilà. Voyez, ne me prenez pas mal, hein, je ne dis pas de voir Mystery Man pour les blagues sexistes et racistes. Voyez-le pour tout le reste. Voyez-le pour l'outrance.
Oui.
Voyez-le pour tout ce qui se permet. Ne faites pas trop attention à certains CGI qui ont un peu vieilli. Heureusement, le film a la bonne idée de garder énormément de décors en physique, de cascades aussi en physique. Voilà, il y a du dur, il y a du décor cassé. C'était encore l'époque où on pouvait faire ça. Il a été doté d'un bon budget qu'il n'a même pas réussi à rembourser au mondial. Ça a été très très difficile pour eux. Mais voilà, petit à petit, il va dire qu'il s'est amélioré. Voyez Mystery Man, vraiment. Surtout, en plus, si vous êtes très fan de Ben Stiller, ça peut être très cool. Je recommande pas forcément la VF, parce que ici, vous, surtout sur un vieux film, vous trouverez peut-être plus facilement la VF. Si vous avez la VO, partez un petit peu plus dessus, parce que la VF de l'époque a quelques soucis de synchro labiale. Et à certains moments, ça peut vous faire sortir du film, quoi.
D'accord.
Voilà.
Je vais juste
C'était
rajouter un
juste une.
truc que c'est
Ouais.
bien, on va pas en parler, mais c'est bien d'avoir parlé de Hero Corp, qui est une série que j'aimais bien aussi, qui était vraiment
Oui.
fauché, hein, qui était vraiment fauché, mais qui a eu, qui réussissait par ses dialogues à être plutôt marrante, quoi. C'était, voilà, c'était un bel essai, hein, ça a été monté avec peu de moyens. Et si on peut retomber dessus, bah moi je me suis payé quelques bonnes barres de rire, quoi, entre.
Ah oui, vous pouvez y aller sur Internet,
Ouais,
hein.
ça vaut le coup d'être regardé. C'est des petits épisodes rapides et
Comme Kaamelott, en fait. C'est un peu le Kaamelott du... mais des
c'est
super-héros,
ça,
quoi.
tout à fait. Donc HeroCorp est largement recommandable. Voilà.
Très bien. Bon, ben, c'est fini pour Mystery Man. Corbeau, qu'est-ce que t'as
Alors
d'autre
moi
avec toi?
maintenant j'ai Super. C'est un film
Ah!
américain de James Gunn. Oui, le James Gunn. Hein,
Le
oui,
fameux.
qui a fait les Gardiens de la Galaxie, hein, notamment, hein, pour ce qui est peut-être le plus connu, quoi. Et bon, il a quand même une petite carrière maintenant qui est quand même assez honnête, hein, en toute honnêteté. Hein. Moi, j'ai vu dernièrement le dernier film que j'ai vu de lui, c'était The Suicide Squad, la nouvelle itération, et que j'ai trouvé plutôt pas bien, plutôt, pardon, plutôt bien, et qui va à fond dans le délire, quoi, et qui comparé à l'initial.
Ah bah c'est pas dur d'être mieux que l'initial,
Oui,
hein,
en
on va
même
y aller,
temps,
rien.
je vois pas ce qu'on pourrait faire pire, hein, c'est pas faux.
Star Wars épisode 9.
Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a pire que ça? Après, c'est l'enfer, quoi. Et encore.
Ah oui, bah quasiment le nazisme.
Et donc Super, c'est un film qui est sorti en 2011. Avec, il y a plutôt un beau casting, hein. T'as Rainn Wilson, qu'on connaissait pour The
Oui.
Office, Elliot Page, Liv Tyler, Kevin Bacon, Nathan Fillion. Donc voilà, c'est plutôt un beau casting. C'est pas un film qui a coûté très cher. Et donc qui raconte l'histoire de Frank, un bon gros loser des familles, quoi, qui après que sa femme se soit barrée et soit sous la coupe d'un trafiquant de drogue, plonge dans la dépression et finit par péter les plombs, hein, on peut le dire, puisqu'il décide de devenir un super-héros pour sauver les gens et attaquer le crime dans les rues de sa ville. Alors bon, je sais pas si vous voyez la tronche qu'a Rainn Wilson. Bon, c'est plutôt un grand gars, mais il a un visage un peu poupin. Voilà, vous le voyez. À part sa taille, bon, il n'est pas super menaçant, quoi. Hein. C'est voilà, c'est et en plus il devient le super-héros l'éclair cramoisi, qui est un gros costume rouge avec un casque jaune dessus, et il décide d'affronter les méchants avec une clé à molette. Voilà. Donc on part sur ce postulat. Et ben, ça reste un film assez fun. Alors c'est pas non plus le renouveau du film de super-héros, faut peut-être pas déconner, mais ça a réussi à mélanger des scènes assez comiques. Ben le gars, si on peut dire, il s'improvise super-héros, mais sans moyens, sans vraiment de talent, voilà. Mais il y a toujours le côté un petit peu débridé de James Gunn qui lâche rien au niveau de la violence. Hein. Quand il s'agit d'éclater la tronche d'un gars à la clé à molette, voilà, il y va à fond, les blessures font mal, on est dans le monde réel. Voilà, on revient à ce que tu disais tout à l'heure à propos de Incassable, un héros dans un monde réel. Mais là, voilà, c'est un héros dans un monde réel mais qui n'a pas les épaules. Voilà, c'est ça super. Et donc tu as toute la quête du personnage, en fait tu finis par comprendre qu'il est un petit peu en grosse dépression et que la fille qui le suit, donc à l'époque c'était Ellen Page, maintenant c'est Elliot Page, hein, voilà, ça, voilà. Bah, elle est un petit peu fondue du cerveau, elle le suit dans sa quête et devient elle aussi une super-héroïne et ils vont lutter ensemble contre le dealer incarné par Kevin Bacon. Voilà. C'est là aussi, c'est un film, franchement, je suis tombé un jour dessus par hasard, j'ai jamais vu personne en faire la pub, c'est vraiment sous les radars, hein, mais voilà, vous attendez pas à quelque chose de débridé, de fou furieux, quoi, ne vous attendez pas non plus à des éclats de rire, mais il y a plein de scènes, voilà, qui peuvent vous faire sourire, puis comme je disais, toujours ce côté jusqu'au boutiste de James Gunn. Voilà, il se refuse rien, quoi. Le Nathan Fillion, il joue une sorte de super-héros chrétien. Il est très très drôle, tu le vois boudiner dans son espèce de collant, etc. Voilà, rien que visuellement, c'est plutôt assez drôle. C'est un film qui est assez triste et qui finit plutôt mal. Mais ça le mérite, bah voilà, d'offrir une nouvelle vision et d'être plutôt honnête. Et bah, comme je disais, peu connu, donc je trouve que c'est pas une mauvaise idée de jeter un œil dessus.
D'accord. Bah, écoute, c'est amusant que tu en parles parce que bah, on me l'avait conseillé, il est dans ma liste, faut que je le voie. Donc je peux rien dire dessus, mais de ce que tu me décris, de ce qu'on m'a effectivement rapporté, ça m'a fait penser à un autre film que j'ai vu moi et ben, je comptais l'évoquer ce soir, mais je vais pas l'évoquer trop longtemps non plus parce qu'au final j'ai l'impression que c'est un petit peu une histoire qui se ressemble en tout cas beaucoup et en tout cas la façon dont c'est traité, c'est Defender. Est-ce que tu l'as vu,
Je
Defender?
l'ai vu, mais il y a longtemps. Je sais que c'est avec comment s'appelle l'acteur
Woody
Woody
Harrelson.
Harrelson, c'est ça.
Ouais.
C'est une incursion dans un monde de super-héros. On n'est pas dans Venom 2. Voilà. Hein,
Non,
mais
pas du tout.
j'en ai un souvenir plutôt sympa. Là aussi, on est plutôt dans le lourd, la tristesse, si je me rappelle
C'est
bien.
très, oui, c'est ça, c'est très triste. En fait, imaginez que Forrest Gump se dise qu'il a un compte à régler avec des gens qui sont responsables de la mort de son père et qui va prendre les armes pour faire la loi dans la rue. Et ben c'est ça en fait, Defender. Donc Defender avec la faute d'orthographe hein, qui va bien, puisque normalement on dit Defender. D'ailleurs, on lui fait remarquer dans le film. Il se trouve qu'en fait c'est l'histoire d'Arthur, donc joué par Woody Harrelson, qui est un mec qui est un petit peu voilà, un léger retardé mental, qui se déguise la nuit en super-héros, alors avec tout l'équipement qu'il faut pour être offensif, c'est-à-dire diverses armes, matraques, tout ça, mais vraiment bien préparé pour être bien violent, et qui décide de faire la guerre au crime pour finalement nettoyer la ville et retrouver ceux qui pensent être responsables, notamment la mort de son père. Et ben, ce film est lui aussi assez triste, puisque c'est un personnage tragique. Qui a une quête où bah voilà, il part pas vainqueur, même s'il peut être dangereux, il part clairement pas vainqueur, les méchants sont plus forts que lui, et surtout il embête les gens qu'il faut pas, tout le monde essaye de lui dire d'arrêter, mais lui il veut continuer, il va prendre aussi une jeune fille sous son aile, aussi une jeune fille de la rue sous son aile, pour la protéger, voilà, c'est vraiment le super-héros qu'il imagine dans un petit peu toute sa représentation la plus pure. Voilà, celui qui défend la veuve et l'orphelin, celui qu'on voit quand on est petit à la télé, sauf que là, c'est un homme de 35 ans qui décide de le jouer en vrai. Et que cet homme, par contre, n'a pas toutes les capacités mentales pour bien comprendre le monde qui l'entoure. Et en ça, c'est tragique. Tout comme Super, c'est très violent. Tout comme Super, bah, vous verrez même s'il y a bon, il y a une fin qui est douce amère, mais ça vaut vraiment le coup de le découvrir. Ça peut être très prenant au trip. Vous pouvez vous sentir vraiment très marqué aussi par l'interprétation de Woody Harrelson, qui est un personnage qui est pathétique, mais dans le sens premier. On a pitié de lui. On a tout le temps envie de lui dire non, mais arrête, arrête, fais pas ça. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Pourquoi est-ce que la société t'a poussé à être comme ça? Pourquoi est-ce que notre société permet à fait que des gens comme ça puissent venir à de telles extrémités? Donc voilà, un film qui va vous mettre pas forcément de bonne humeur, mais qui en tout cas vous montrera qu'on peut faire de belles choses dans le cinéma. Dans la façon dont on raconte une histoire, dans la façon dont des acteurs peuvent être vraiment impliqués sur un film. Là encore, tout comme Super, c'est un film qui a vraiment pas coûté cher, mais qui remplit vraiment toutes ses promesses. Le cast, il est vraiment impliqué, les gens, ils sont là, ils font le taf. On a une ambiance qui est vraiment bien installée. Pour les amateurs de Grey's Anatomy, vous verrez Sandra Oh dans un rôle totalement différent. Des trucs de. Alors, depuis, elle a fait Killing Eve, qui change un petit peu des séries pour femmes. Mais là, vraiment, moi, c'est aussi vraiment un autre geste où je l'ai découverte. C'est vraiment sympa. Si vous voulez vraiment vous trouver des films qui peuvent représenter le quotidien, vraiment le quotidien d'un super-héros, d'un vrai super-héros, c'est-à-dire que fatalement il va tomber sur le crime, il va tomber sur des gens méchants, il va tomber vraiment sur tout ce que la société peut lui sortir de plus horrible, de plus triste. Bah c'est ça, voilà. Donc, regardez Defender et d'après ce que nous dit Corbeau, regardez Super avec. Et je pense que c'est un bon diptyque pour plonger dans ce monde-là.
Oui, on est dans des univers très proches, quoi. Voilà, très terre à terre. Hein. On fait pas plus terre à terre, quoi. Par contre, prévoyez le Xanax, hein, parce que
Ah
les deux coups sur
oui.
coup, voilà.
C'est clair, c'est clair. On vous spoile pas, mais en fait, le truc, c'est que dès que vous voyez le début du film, vous savez que ça va être une histoire triste, tout de suite. Sans spoiler, voilà, l'histoire est triste.
Et surtout, par exemple, un excellent rôle pour Woody Harrelson, qui a toujours tendance des
Oui.
fois à en faire des caisses dans ses films. Là, il est vraiment dans la mesure, la finesse, quoi. Il est très touchant dans son personnage et c'est extrêmement bien joué. Donc, un
Oui,
très très beau rôle
il est
pour lui.
tout à fait, très très bien interprété, pas d'outrance, et c'est très dur. Je reprends ce fameux dialogue de Robert Downey Jr. et Ben Stiller dans Tonnerre sous les tropiques, où il dit Never go full retard. Voilà, je joue pas un complet attardé parce que c'est trop dur. Il faut vraiment être un acteur fantastique pour faire ça. Là, effectivement, Woody Harrelson joue un attardé qui se prend pour un super-héros qui a un certain succès, mais il arrive tout à fait à nous faire passer la détresse de son personnage. Et donc pour moi, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un petit peu le Forrest Gump mélangé avec Taxi Driver. Bien. Alors, après avoir détruit l'ambiance un peu de tout le monde, partons sur des contrées un peu plus gaies, plus heureuses avec nos prochaines recommandations. Corbeau, est-ce que tu as un truc plus heureux derrière?
Alors plus heureux, pas vraiment. Hein.
Ah,
Voilà, on
zut!
va rester un petit peu dans le malheur, quoi. Hein. Parce que moi, je pensais à un film de super-héros qui est très récent, mais là aussi, j'attendais beaucoup et qui aussi a pas eu, semble-t-il, un succès fou. C'est Brightburn, c'est l'enfant du mal en France.
D'accord.
C'est un film de super-héros américain réalisé par David Yarovesky, si je prononce bien. Voilà. Avec notamment Elizabeth Banks, que j'aime beaucoup. Très très mignonne,
D'accord.
Elizabeth Banks. Voilà. Donc, c'est l'histoire. Ben, en fait, il n'y a pas à chercher très loin. En fait, c'est l'enfance de Superman, mais avec un gosse corévrier. Voilà, donc
Ah.
voilà. Les parents découvrent une capsule, ils sont fermiers, hein. Ils découvrent une capsule, ça se passe au Kansas, voilà, alors déjà, Kansas, fermier, capsule d'enfants extraterrestres, je vous dis
Oui, c'est
ça,
Superman,
c'est
quoi.
Superman, quoi. Et en fait, le gosse grandit et on se rend compte qu'il a des crises de colère et il se rend compte de sa force, de son invulnérabilité, de sa vitesse, et plutôt que de faire le bien, ben. Il va éliminer tout ce qui peut le frustrer, aussi bien camarades de classe que personnes qui ont pu le mettre en colère.
Ça me rappelle un autre super-héros qu'on voit beaucoup en ce moment, surtout dans les mêmes Twitter. C'est notre cher ami Homelander, non?
Ah oui, d'accord. J'étais pas chercher un film, d'accord. Oui, bah oui, le Homelander, oui, c'est ça, le protecteur, il est très, très, comment dire. En plus, j'ai vu
C'est
le,
Monsieur Connard, hein? C'est Monsieur
ouais,
Connard,
j'ai vu le
tout
dernier
simplement.
épisode ce matin. Effectivement, dans la catégorie psychopathe avec des super pouvoirs, on est en plein dedans, quoi. Voilà, c'est ça. Mais là, la seule différence avec Homelander, c'est que le Homelander donne un visage vis-à-vis de la population assez affable. Il est le protecteur, il vit sur l'image qu'il a et c'est un peu un super-héros d'opérette. Tandis que là, le Brightburn, avec des pouvoirs identiques, bah, il s'en fout de tout. Le film, il se finit en massacre. Hein, et en
Ah
fait,
oui.
on comprend bien qu'il est une menace pour l'humanité complète, quoi. C'est bah, comment tu arrêtes Superman quand il part en sucette, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, juste une parenthèse. Il y a une série de BD qui était sortie où Superman justement perdait Loïs et devenait fou et comment dire bah, faisait régner la terreur sur le monde quoi. Donc
Ah oui, c'est Ah merde. Mais c'est un petit peu ce qui est fait dans Injustice, mais c'est pas Injustice
bah
d'ailleurs.
si, c'est Injustice. Voilà, je cherchais, je
Ouais,
trouvais
c'est
pas.
ça, c'est Injustice.
Voilà, donc bah là c'est Superman, il a une bonne raison parce qu'il a complètement vrillé quand il a perdu Loïs et après bah voilà, il essaye de quoi qu'il a vrillé, mais il essaye de rendre le monde comment dire sans crime, voilà, plus
Plus
sûr,
sûr, ouais,
mais en
sans
devenant
crime.
extrêmement mauvais. Tandis que
Ouais.
dans Brightburn, le gosse est complètement comment dire, il s'appelle Brandon, voilà, le gosse est complètement bah, c'est un psychopathe à l'état pur. Il n'essaye pas de rendre le monde meilleur ou d'éliminer les méchants. Il élimine tout ce qui. Voilà. Il ne supporte pas la frustration. Il va éliminer tout ce qui va à l'encontre de ses désirs. Voilà. C'est un gosse mal éduqué, puissance 1000, quoi. Et c'est une production de James Gunn, encore lui, hein, décidément, hein, toujours dans les bons coups. Alors le film. Pas eu un, si je me rappelle bien, le film a pas eu un succès foufou, hein, mais j'avais trouvé les bandes annonces étaient assez flippantes, hein, elles t'envoyaient du lourd. Bon, après le film, je l'ai trouvé un peu peut-être un petit peu timoré, quoi. C'est, je sais pas, j'ai pas été à fond dedans, même si j'ai trouvé que l'idée était plutôt originale. Et puis bon, comme je disais, c'est une production de James Gunn, donc là aussi, quand il s'agit d'aller dans la violence et le dépeçage, voilà, il fait jamais dans la dentelle, lui, hein, voilà.
Il sait y faire.
Il n'a pas vraiment de retenue, hein. Mais c'est un film aussi qui a pas, qui a, j'en entends pas souvent parler, mais je trouve qu'il pour l'essai, pour l'idée en elle-même, ça vaut le coup d'être vu aussi. Et puis vous pouvez lire, comme tu leur disais, vous pouvez lire Injustice, qui est plutôt sympathique. Je crois qu'il s'est arrêté au bout de
Oui.
5 saisons, un truc comme ça, si je me trompe pas. Mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal.
Oui, l'histoire est assez sympa et c'est la trame qui est reprise d'ailleurs dans les jeux vidéo. Bon, là, par contre, c'est des jeux de baston, mais il y a quelques séquences cinématiques qui parlent un petit peu de ça. Donc, les jeux vidéo Injustice, où les super-héros DC se tapent sur la gueule.
C'est ça. Et donc, je sais pas si c'est le comics qui a été lancé ou c'est les jeux vidéo qui ont derrière donné lieu à la publication. Je ne sais pas dans quel ordre ça a été fait. Ça s'appelle
Oh, là, tu m'en demandes trop,
c'est
je saurais pas
Injustice, les
dire.
dieux sont parmi nous. C'est le titre en
C'est
France.
ça, ouais,
Voilà.
c'est ça. Tout à
Ah bah
fait.
attends, je vérifie. C'est une série de comics qui sert de préquel aux jeux vidéo de combat Injustice. Voilà.
Ah bah voilà,
Voilà.
très bien.
Voilà. C'est.
Alors, l'info en direct.
Voilà. Quel talent, hein.
Effectivement, toujours une équipe de talent au
Bah
BMC.
oui, merci Wikipédia quand
Bon, après, les gens diront qu'on est des podcasteurs pas sérieux qui prépareront pas nos
Oh, c'est pas
émissions.
notre style.
C'est jamais, jamais. Tout comme on ne boit pas d'alcool pendant qu'on parle.
Exactement.
Bah non, bah non. Alors bon, bon, c'était pas très heureux, mais disons que c'était un peu moins dépressif que ce dont on parlait avant. Moi, maintenant, je vais retourner plus dans le chapitre du. bah, disons, de la un peu de la gaudriole, en tout cas du sympathique. Si je vous parle de Michel Gondry, les plus anciens d'entre vous se souviendront peut-être que c'était le gars qui avait fait le français qui avait eu un peu de succès à Hollywood avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind, avec, avec Jim Carrey. Et puis aussi avec Jack Black, quand il avait tourné Soyez sympa Rembobiné, qui est un film extrêmement, extrêmement sympa que j'aime beaucoup. En 2011, Michel Gondry tourne Le Frelon Vert, The Green Hornet. Alors c'est un nom, encore une fois, qui n'était pas inconnu à l'époque, puisque c'était l'adaptation cinématographique de la série éponyme qui était sortie dans les années 60. Ça doit être 66-67. La série, en fait, qui avait pratiquement lancé la carrière de Bruce Lee.
Tout à fait.
Voilà, Le Frelon Vert, avec le fameux générique à la trompette. Si vous tapez OST Green Hornet, vous le reconnaîtrez. Ça a été utilisé notamment dans Kill Bill Volume
Tout
1
à fait,
comme
oui.
musique. Ça a été utilisé aussi dans pas mal de pubs. Vraiment un thème qui donne la patate et qui
Ah bah
tout de suite vous met dans
tu
l'action,
en
quoi.
parles, rien que de m'avoir, tu vois, le générique, je l'avais pas. Et puis tu m'as dit générique à la trompette, et d'un coup, hop, ça t'arrive en tête, dès que
Ouais.
tu l'as entendu, c'est inoubliable, quoi.
Bah voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, bah, qu'est-ce que ça raconte d'abord le Frelon Vert, l'histoire en elle-même? Donc un mec qui est une espèce de... On repart un petit peu sur une histoire de... sur un Bruce Wayne. Sauf que là, c'est un peu un Bruce Wayne dégénéré. C'est un, voilà, une espèce de fils de milliardaire. C'est un petit peu un Jean-Foutre. C'est un gars qui passe plus sa vie à faire la fête. Et à picoler et à coucher avec toutes les nanas qu'il peut, plutôt qu'à rendre son père fier de lui. Son père qui est propriétaire d'un grand journal et qui vient à mourir. Donc ce mec-là, Britt Reed, se retrouve seul, orphelin, sans père, avec beaucoup d'argent et pas tellement d'autres perspectives d'avenir que de se la couler douce en laissant tous ses employés faire le boulot à sa place. Et il se trouve que ce mec-là, un jour, se rend compte que l'un des employés de son père, qui était en fait le mécano qui s'occupait des voitures du garage, est en fait un professionnel d'à peu près tout. C'est un génie. Il sait bricoler, il sait tout fabriquer de ses mains. Il sait aussi se battre, parce que c'est un gars qui fait du kung-fu, un expert des arts martiaux, un peu de tout. Très grand ingénieur, il s'est designé, bref, un gars, une espèce de monsieur parfait. Et avec ce chauffeur, slash ingénieur, slash kung fu, tout ce que vous voulez, il décide un soir de beuverie où il fête le départ, finalement, l'enterrement du milliardaire qui est mort, ben que. Avec tout ce qu'ils savent, avec tout ce que ce mec-là sait faire, donc il s'appelle Cato, tout ce que Cato sait faire et l'argent que Britt lui fournit, eh ben ils vont faire comme Batman et Robin finalement, c'est-à-dire combattre le mal, faire en sorte d'être des super-héros. Sauf qu'en fait c'est une idée un peu pourrie. Alors déjà ils l'ont eu parce qu'ils étaient bourrés et ils se disent ben pour être des super-héros et tout de suite avoir des super méchants à se mettre sous la main, bah il faut qu'on attire les super méchants à nous. Et pour qu'on attire les super méchants à nous, il faut qu'on leur fasse croire qu'on est des super méchants, tout en étant des super gentils. Parce que si on leur dit qu'on est des super gentils, eh bien, ils viendront pas nous voir. Et donc, déguisés en super-héros avec des masques, les deux larrons commencent à attaquer tous les laboratoires de méthamphétamine de la ville. Histoire d'énerver les caïds et de dire qu'il y a voilà, un nouveau caïd. Et c'est là que bah, voilà, le vent commence à tourner pour eux. Les journaux s'intéressent à leur cas, la police aussi, les grands méchants aussi. Et l'aventure commence. Alors, ce film, Corbeau, toi tu m'as dit en off que tu l'avais vu.
Oui.
Qu'est-ce que tu en as pensé déjà?
Ben, il y avait du potentiel. Mais a priori, déjà, Michel Gondry, je ne sais pas si c'est le bon choix pour un tel film. Il n'a pas l'air d'être vraiment intéressé par son super-héros. Et puis surtout, ben, le héros principal, c'est Seth Rogen. Et
Et
voilà,
oui, et
c'est le
oui.
problème. Seth Rogen, on le voit bien lâcher une caisse dans un film. Par contre, en super-héros, on n'y croit pas une seconde. Il a toujours Et puis même dans le film, il fait toujours ses blagues un peu méta, un peu second degré, toujours ces délires pipi caca et ça colle pas avec le personnage quoi. Donc c'est une grosse faute de casting quoi.
Exactement. Alors, je pense que si on prend le film tel que Michel Gondry veut nous le présenter, et pas tellement comme doit l'être le personnage du Frelon Vert, donc normalement, hein, voilà, interprété par Seth Rogen, et ben en fait, il apparaît à ce moment-là beaucoup plus cohérent. Je m'explique. En fait, finalement, la presse, les méchants, les gentils, tout ça, tout le monde ne parle tout le temps que du Frelon Vert et de son chauffeur. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que finalement, toutes les bagarres, tous les super véhicules qu'utilise le Frelon Vert, tout ça, en fait, tout vient de Kato. Kato est le Frelon Vert. Seth Rogen, donc Britt Reed, n'est en fait qu'un prête-nom, c'est un visage. C'est Kato qui fait tout. D'ailleurs, à un moment dans le film, il lui dit, sans moi, il n'y a pas de Frelon Vert. Et alors qu'à côté, ben, Britt, donc Seth Rogen, continue à être une espèce de connard misogyne très très lourd, paresseux, et qui veut tout le temps tirer la couverture à lui, on a envie de le baffer. On a envie de le baffer. C'est pas lui le super-héros, tout le temps on se dit, mais c'est clair, mais qu'est-ce que tu fous là, le super-héros? C'est Kato, il a des capacités physiques totalement dingues, il peut s'en sortir tout seul. Dans la rue, il craint personne. Tandis que l'autre, tout ce qu'il fait, c'est quand ils font une bagarre, Kato défonce 7 ou 8 gars, et l'autre, il passe derrière, il les finit à coups de pied pendant que les mecs sont par terre.
C'est ça.
Et ouais, c'est exactement ça. En plus, voilà, il dit qu'il a fait quelque chose. Donc, c'est un petit peu dommage parce qu'on a quand même un casting délirant à côté. Bon, il y a Jeshu qui est. Ouais, vraiment qui s'est bougé, qui s'est donné de sa personne. On a Cameron Diaz qui a quelques trop rares scènes, c'est dommage parce qu'elle a quand même de l'énergie, mais surtout le gros point fort, c'est le grand méchant joué par Christopher Waltz.
Oui.
Ouais, et là qui est voilà qui joue le parrain en fait hein, de la mafia. Il est super. Il est super, c'est tout à fait le gars qui a un humour très pince-sans-rire, très froid. Qui tue autant ses hommes que ses ennemis, dans le plus grand des calmes. En fait, voilà, chacune de ses scènes est délectable, surtout si vous aimez Christopher Waltz. Mais effectivement, comme tu as dit, le problème, c'est Seth Rogen, qui, je trouve, est en fait un problème dans le sens, disons, dans la chronologie dans laquelle vous voyez le film. Je m'explique, j'ai vu le film il est sorti en 2011, j'ai dû le voir juste après sa sortie. Et à ce moment-là, j'avais vu aucun autre film avec Seth Rogen. Dans la décennie suivante, j'en ai vu plein, avec Seth Rogen notamment qui a subi un régime inversé, donc c'est-à-dire notamment qui avait pris beaucoup d'embonpoint et qui a endossé beaucoup plus ce rôle de personnage comique. Alors voyez l'interview, c'est la fin. Et là, vous comprendrez ce que je veux dire. Quand vous voyez ces films-là, après revenir à un film où il est censé être un super-héros, ça le fait pas du tout. C'est un petit peu le problème. Pour préparer ce podcast, j'ai revu le Frelon Vert. Et là, ouais, j'ai vraiment compris ce que c'était le problème. Voilà, c'est lui. C'est dommage, c'est le personnage principal. À côté de ça, il y a pas mal de choses à sauver. Il y a des séquences qui ont quand même une belle énergie, notamment le climax de fin entre la poursuite et la fusillade. Oui, Michel Gondry, c'est pas son boulot, mais là c'était probablement une équipe B qui tournait. Il y a vraiment beaucoup de trucs très sympas. Il y a une esthétique, il y a des choses qui changent. Ouais, ça change du Marvel, hein, ça change du Marvel, ça change du DC. On est complètement dans autre chose. C'est dommage, voilà, je pense que ce film-là a il y a des points intéressants, mais quand il se finit, on se dit, ah, c'est dommage, parce qu'en plus, il y avait peut-être la matière à faire une suite, peut-être avec un autre acteur principal, ce qui a déjà été fait, hein, avec Hulk notamment. Les acteurs, ils ont toujours changé. Ça n'a pas empêché d'avoir une suite avec Norton, qui était bien meilleur que le premier avec Eric Bana. Donc, moi, j'aurais bien aimé une suite au Frelon Vert, parce que globalement, voilà, on rentrait en plein dans une décennie trustée par Marvel. Ça aurait amené de la fraîcheur, et c'est un petit peu dommage, un petit peu dommage. Surtout que c'est un film qui a coûté des trouzaines de dollars. Je crois qu'il est budgété à quelque chose comme 120 ou 130 millions hors budget com. C'est monstrueux. Il a à peine remboursé
Sa mise.
sa mise, ouais, au niveau mondial. C'est un petit peu triste, voilà.
Je pense que c'est comme tu disais, déjà il a quand même un très bel aspect pulp, ça on peut pas lui enlever.
Tout à fait, ouais.
Et Jay Chou qui joue Kato est très très bon. C'est sûr que performance physique, je pense que le film aurait pu tourner juste avec lui, quoi. Voilà. Mais en
Exactement,
même temps, le
exactement.
fait que là aussi, c'est un petit peu comme la série des années 60. Alors, j'en ai un vague souvenir parce que j'en ai vu quelques-uns, mais il y a longtemps. C'est vrai qu'il y avait Bruce Lee, et c'est vrai que Bruce Lee était, comment dire, était extrêmement bon. D'ailleurs, quand tu le revois, bon, il était bon pour sa performance physique. Hein, bah là c'est la même chose. Jay Chou, comment dire, porte le film tout seul, et par contre Seth Rogen, bah il le plombe à outrance, quoi. C'est dommage parce qu'en plus ça aurait pu faire une série de films, ou en tout cas un univers assez sympathique, parce que le Frelon Vert ça reste quand même un bon personnage, quoi. Bon, c'est vrai qu'il par sa position, je crois que le Frelon Vert, c'est pas un milliardaire, mais je crois qu'il est journaliste ou un truc comme ça, hein, dans mon souvenir.
Alors, dans l'origine, il est rédacteur en chef, hein, du Daily Sentinel, donc le journal. Donc il a quand même une position assez élevée.
Oui, c'est pas un clodo, quoi, mais c'est-à-dire, oui. Puis c'était l'époque où justement le journaliste était le défenseur de la veuve et de l'orphelin qui faisait apparaître la vérité, etc., quoi. Donc
C'est un peu ça aussi.
voilà.
Alors, un bon point que j'ai apprécié. C'est que là, bon, le rédacteur en chef du journal Daily Sentinel, donc Britt Reid est propriétaire du Daily Sentinel, donc suite au décès de son père dans le film. Et par contre, le rédacteur en chef est joué par Edward James Olmos, qui joue Gaff dans Blade Runner, mais surtout le commandant Adama dans Battlestar Galactica.
Oui.
Donc voilà, les fans de Battlestar Galactica apprécieront. Edward James Olmos, et c'était la même époque en plus. Donc, toujours sympa, moi c'est un acteur que j'aime
Ah
beaucoup.
oui,
Je me souviens.
il transpire le charisme
Ah oui,
par tous les pores de la
ouais.
peau, hein, franchement.
Moi, je me souvenais plus qu'il aurait dû. Je me souvenais plus qu'il était dedans. Donc, quand j'ai vu le film, j'étais si surpris. Et pour vous dire encore, petite anecdote. Donc, on est bien servi en méchant par Christopher Waltz, qui est parfait dans son rôle. Mais si je vous dis qu'on a failli avoir Dieu, Nicolas Cage a failli tenir le rôle.
Ah voilà, c'est ça, voilà le loupé de base, c'est ça.
Voilà. Voilà. Bon, le front en vert. Si vous tombez dessus, si vous le trouvez sur un service en ligne, ou si votre oncle américain vous l'envoie, ou même à la télé, hein, parce que ça peut passer à la télé, maintenant c'est un film assez ancien. Franchement, c'est sympa, c'est sympa. Et surtout, c'est un des rares films de super-héros aujourd'hui où il y a un thème. Alors le thème, c'est facile, c'est celui de la série qui est repris. Mais voilà, il y a un thème. Il y a un thème qui reste, il y a une musique qui reste. Et c'est pas de la bouillie sonore servie par un stagiaire de chez Hans Zimmer, qui s'est endormi sur un synthétiseur. Donc vraiment, là, on a encore de la vraie musique. Mon cher Corbeau, moi j'ai fini mon petit tour. Est-ce que toi tu as encore une recommandation ou peut-être quelques-unes à
Alors, j'ai des
passer?
recommandations, là c'est plus dans les films, C'est,
Ouais.
je pense que j'ai parlé. Si, je pourrais juste faire une petite incartade, c'est un film de super-héros qui lui aussi a été injustement boudé à sa sortie, c'est Rocketeer. Voilà.
Ah
Alors il est
trop,
pas tout
trop, trop
jeune.
passé sous les radars.
Il n'est pas tout
Ouais.
jeune, mais je dois avouer que les effets ont un peu vieilli. Mais alors, là, le côté pulp, tu l'as en plein. Hein.
Mais
T'as
complètement.
un casting quand même qui est plutôt propre, hein, en toute honnêteté. Notamment, bon, le héros principal, c'était à la base, je crois, un héros de l'acteur. Il l'a fait surtout de la série télé. Hein. Mais je me rappelle plus son nom. C'était Billy Campbell. Billy Campbell, bon, que
Putain, il a bien un nom de personnage de télé,
voilà,
lui.
c'est ça. Mais bon, dedans, t'as Jennifer Connelly, hein, impossible de
Ah
pas
ouais, et
tomber amoureux, hein.
puis
Alan
exactement.
Arkin, Timothy Dalton, Paul Sorvino,
Timothy Dalton. Non, mais Timothy Dalton en grand méchant
voilà,
déjà.
qui fait un méchant, une espèce de parodie de, comment ça s'appelle, de cet acteur, d'Errol Flynn, voilà, il fait une. Il ressemble à Errol Flynn, quoi. Et puisqu'il y avait des. Je pense qu'ils ont dû utiliser cette partie où on avait sous-entendu que Errol Flynn, pendant la guerre, avait des sympathies pour les nazis. Je crois que ça avait été démenti. Voilà, ils sont partis sur ce postulat de base. Et donc, Rocketeer, c'est vraiment. Alors, il s'est gamellé sauvagement au box-office. C'est un film qui a quand même 30 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Mais alors, dans la catégorie inventif et péchu, voilà.
Il a acquis un petit statut
Oui,
culte.
ça c'est vrai.
Et puis, je crois qu'il est d'ailleurs, enfin, il a eu un petit son problème, c'est surtout que si je dis pas de bêtises, il est sorti face à Jurassic Park.
Ah oui, bah là,
Bah voilà, donc
grosse gamelle assurée, quoi. Hein, donc, en même temps, bon, avant que Jurassic Park sorte, tu peux pas savoir, quoi. Tu tentes le coup et puis voilà. Alors voilà, c'était juste un petit aparté comme ça. C'est un film qu'il faut vraiment voir, qui voilà, c'est moi je le mets dans, tu vois, je le mettrais un petit peu dans la catégorie des films qui me mettent bien la pêche avec tu vois, Lone Rangers, tu vois, c'est toujours du
Ouais.
Disney. Lone Rangers, Rocketeer, et tu peux rajouter dessus comment s'appelle, à la poursuite de demain. Voilà, c'est des
Oui,
films
oui,
très
oui.
colorés, très très enlevés, etc. Et
C'est un film doudou.
voilà, c'est du film, quand ça va pas bien, tu te mets ça, ça vaut largement le coup, quoi. Et puis on a un super-héros plutôt, voilà, que tout le monde connaît pas, et il y a un chara-design et une, comment on appelle ça, une production qui est vraiment vraiment de belle qualité, quoi. On nous reproduit les années, ça se passe dans les années
Les années 50,
non, dans les années 30,
40,
et puis c'est
fin
juste
des...
avant la guerre, c'est juste avant la
Ah
Seconde Guerre,
oui.
c'est juste à la fin des années 30. Voilà. Donc et puis c'est un super-héros qui, comment dire, il y a quand même un certain, l'acteur est moyen, honnêtement. Par exemple, moi j'avais plus de plaisir à voir comment s'appelle Timothy Dalton. Il cabotine en diable
Oui,
et tout, il est
carrément,
absolument.
carrément.
Bon, Timothy Dalton, c'est du lourd, quoi. C'est dommage qu'un acteur comme ça ait pas une carrière plus, je veux pas dire plus rempli, parce qu'il a tourné, mais quoi, mais il y a rien qui,
Je pense qu'il a y a rien qui le sublime.
c'est
C'est
ça.
un peu ça le problème.
Bah justement, tiens, toujours, on va faire dans la partie. Par exemple, bah, en parlant de super-héros, notons que Timothy Dalton joue dans Doom Patrol, la série télévisée. J'avais vu quelques
Oh là là.
épisodes. Alors, je dois avouer que je suis pas allé très loin, mais je sais pas ce que t'en penses, si tu connais. Mais
Ah non, non, mais moi, quand tu parles de Doom. Alors, enfin, est-ce que ça a rapport à voir avec les films Doom ou le jeu
ah
Doom?
non, pas du tout. Pas du tout.
Pas du
Non,
tout?
non.
Ok, bon, ouf.
Voilà, donc j'avais vu quelques essais, et puis à l'époque, ben, savoir qu'il y avait Timothy Dalton, je me l'assumais mis de côté et j'ai pas repris depuis. Donc ça vaut peut-être le coup à voir. Peut-être que les personnes qui vont nous écouter, ben, tenteront peut-être le coup, connaissent déjà. Donc c'était juste pour dire, bon, il y a Timothy Dalton, et un film avec Timothy Dalton ou une série avec Timothy Dalton, ça ne se refuse pas. Voilà.
Eh ben, allons-y alors. En aparté, hein, si vous voulez revoir aussi les débuts de Bruce Willis avant qu'il soit totalement amorphe, regardez Clair de Lune, la série Clair de lune. C'est sympa aussi.
On fait, voilà, c'est le petit côté, ça sort du sujet, mais voilà, on se fait un petit peu plaisir.
Ouais.
Après tout,
Avec des acteurs qu'on aime
c'est
bien.
notre podcast, on fait ce qu'on veut, hein. Ouais, quand même.
C'est ça, rien à foutre. Du coup, les dernières recos qui ne sont pas des films, là, pour le
Oui,
coup.
alors moi j'aurais soit la série télé, soit les BD de The Boys. Hein, c'est la
D'accord.
série est très très enlevée, vraiment. Voilà, bon, tu t'accroches à ton slip hein, parce qu'ils y vont fort, mais ça vaut le coup. Et
Oui,
les
oui.
BD sont très très sympathiques. En plus, c'est une série terminée en BD, donc vous avez, je crois, entre 15 et 20 volumes, si je ne me trompe pas, hein, de mémoire. C'est vraiment très très bien. Donc la BD The Boys, je conseille. Ça se
Tu
lit bien.
recommandes
Oui,
aussi,
alors par contre,
d'accord.
pas à lire avec des enfants, hein, parce que déjà, si vous considérez que la série elle est enlevée, je peux vous dire que la BD, entre sexe et violence, le dessinateur et l'auteur s'est fait plaisir. Hein, voilà. Donc
Ah, super.
c'est voilà. Hein, pas à mettre interdit au moins de 18 ans, hein, largement. Hein.
Ah
Oui,
oui, d'accord.
c'est chaud, c'est
Mais c'est
chaud.
tout ce qu'on aime.
C'est tout ce qu'on aime. Nous, ça va, on est des vieux, on a le droit. Hein.
Nous on a vu Nicolas Cage faire l'amour en se bastonnant avec des gars.
Exactement. La vraie vie, quoi. Donc ça, c'était ma première recommandation, la BD The Boys. Il y a la BD aussi qui s'appelle Irrécupérable. Bah, là aussi, qui part d'un super-héros. Alors au niveau pouvoir, on est proche d'un Superman, pardon. Et bah, en fait, un jour, il vrille. Là encore, c'est une histoire de Superman qui a vrillé. Et il y a toute une histoire, il y a je sais combien de volumes pour voir ben, le mec détruit des pays complets et personne n'arrive à l'arrêter. Et c'est scénarisé par Mark Waid, qui est pas un nouveau venu, hein, loin de là, qu'on a déjà eu pas mal. Et il s'attaque au monde entier et toute l'histoire c'est savoir pourquoi il en est arrivé là et comment on va pouvoir l'arrêter. Donc c'est une très très bonne BD, ça se lit nickel et je recommande aussi, là aussi j'étais tombé dessus un jour par hasard, je l'avais trouvé, j'avais commencé et ça m'a happé dès le début. Donc c'est Irrécupérable de Mark Waid.
Ok, parfait. Bah écoute, juste, ça me fait, à force de, t'as parlé de plusieurs trucs de héros irrécupérables, ça me fait penser, moi, un petit truc comme ça. Je l'ai pas glissé parce que, bon, ça peut peut-être être sympa à voir, mais c'est largement indispensable. C'est Chronicle, je sais pas si tu connais.
Si tu me parles du film ou...
Alors, c'est trois gamins qui trouve une météorite ou un truc du genre, et du coup ils se retrouvent avec des super pouvoirs, notamment de télékinésie, et puis après ils peuvent voler, des choses comme ça. Sauf que dans les trois, il y en a un qui vrille. Voilà.
D'accord.
Et c'est ça. Donc encore une histoire de super-héros qui commence à partir en couille.
Je crois
Et...
l'avoir vu, mais il m'a pas laissé un souvenir énorme.
Bon, il est pas ultra marquant,
Voilà,
quoi.
j'ai pas de...
Mais je vais dire que c'est sa façon de filmer l'histoire qui est plus inhabituelle. C'est qu'en fait, c'est des gamins qui se filment tout le temps avec des caméscopes numériques. Et donc, ils se filment entre eux, voilà comment ils ont leur
Ah,
pouvoir,
c'est un found
le début de
footage,
comment ils
quoi.
les découvrent. Et exactement, c'est un found footage dans un cercle de super-héros avec l'un d'eux qui vrille.
Ah, ça, bah tu vois, tu me remets ça en mémoire. Ah, déjà rien que pour le format, quoi, ça peut être intéressant à revoir. Je peux peut-être essayer de me le caler un de ces quatre dans la longue liste de ce que j'ai à regarder.
Voilà. Dernier reco, toi, du coup,
Alors j'ai
tu me disais
deux
peut-être.
derniers recos. Alors c'est
Ouais.
grâce à la petite Isa, que vous connaissez sûrement sur Twitter,
Ah oui, sur Twitter.
qui m'a fait découvrir The Cape. Alors c'est une BD, un one shot, il hein, y a qu'un volume. Un gosse qui avait découvert quand il était jeune que la cape que sa mère lui avait faite de super-héros lui permettait de voler, mais pour de vrai. Et puis
Ah.
pendant quoi 20 ans, il ne va plus, suite à un accident, il ne va plus la porter, et il va les récupérer à l'âge adulte. Le problème, c'est qu'en tant qu'adulte, c'est un peu un bon gros loser, quoi. Et bah, il va se servir de cette cape qui lui donne le pouvoir de voler pour faire le mal. Alors c'est un one shot, hein, et ça se lit plutôt bien. Là aussi, il y a des moments un peu trash, quoi. Mais voilà, c'est très sympathique à lire. Alors je sais plus de qui c'est. C'est The Cape, la cape en anglais. Voilà. Donc je l'ai lu par hasard la semaine dernière. Je remercie encore Isa pour cette découverte. C'était bien plaisant. Voilà.
D'accord. Et du coup,
Eh
ta
ben,
deuxième reco, ta
c'est
dernière.
un truc de vieux. Je sais pas si tu avais aimé à l'époque, c'était Heroes, la série télé.
Ah oui.
Voilà.
Effectivement, c'était
Ah, ça avait.
le truc qu'il fallait connaître.
Ça a eu son petit
Tout, tout,
succès.
tout, ouais, tout le monde clignait des yeux pour arrêter le temps.
C'est ça. Et donc.
Il y avait Zachary Quinto quand il avait encore du talent.
Oui, avant de
Voilà.
jouer Spock. Voilà. Et donc.
C'est ça.
Et donc, bah, c'est une série plutôt sympa qui, comme beaucoup de séries, bah, s'est un peu perdue à force de tirer sur la corde. Hein. On veut pas arrêter au bon moment parce qu'on se dit on va peut-être refaire une saison de plus.
Ouais.
Je trouve que au moins déjà la première saison, parce que les autres sont un petit. Je crois qu'il y en a 4 au total, mais la première saison est très très bien. Franchement,
C'est ça.
t'as des bons persos, c'était bien amené, et voilà, c'est pas. C'est.
Il y a une tension, il y a un suspense, tu sais pas. C'était. Mais je pense que elle est très symptomatique des séries des années 2000.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire, t'as un setup qui est génial. Tu dis putain, ça y est, c'est la série du futur. C'est plus le truc des grands-parents. Vraiment, là maintenant. Enfin, la série devient cinématographique,
Tout à fait.
pratiquement. Parce que c'est vrai, chaque épisode, c'était pratiquement un film. Et au final, bah oui, t'as un gros cliffhanger à la fin de la première saison. La deuxième, tu la regardes, ouais, troisième, et
Voilà, c'est.
ah, t'en as plus rien à
C'est
foutre.
ça,
Voilà.
c'est le problème, quoi. Voilà, c'est. On a trop étiré le concept, on n'a pas su s'arrêter. La première saison aurait peut-être pu suffire elle-même. On peut imaginer qu'une deuxième saison pour. Mais après, en plus, je crois qu'ils ont fait quelques téléfilms ou séries qui l'ont repris avec un peu de retard plus tard. Voilà, donc c'était. Ça a été un beau gâchis, mais le début était plutôt sympa. Voilà, je regrette un petit peu que ça soit parti comme ça, mais le début valait le coup d'être vu.
Carrément. Bon, ben, cher ami Corbeau, il est temps de nous dire au
Ben
revoir et
oui.
de dire au revoir à nos auditeurs.
Et oui.
Bien. Écoutez, pour ceux qui nous ont écoutés, qui ont écouté cette causerie entre deux vieux cons qui radotent, eh ben, merci déjà. Et puis, on vous donne rendez-vous une prochaine fois avec un autre sujet, probablement sur des westerns oubliés ou alors que personne n'aura connu, ou bien connu en tout cas. Cher Corbeau, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelle est ton actualité?
Bah, de temps en temps,
Quels sont tes méfaits?
quels sont mes méfaits? Bah, de temps en temps, vous pouvez me trouver sur Twitter, évidemment, le corbeau, avec 3 O à la fin. Je fais de temps en temps des petites pastilles que poste l'ami nostalgique, hein, des petites pastilles de 2 minutes sur des films que j'ai vus, en général pour me plaindre. Voilà. Mais voilà, c'est ma actualité. Et puis, bien sûr, bah, depuis longtemps, on n'avait pas bossé ensemble. Hein. Et puis bah, là, on va essayer de se
Ouais.
relancer un petit peu. Comme tu dis, on va essayer de se retrouver le plus vite possible pour quelque chose sur les westerns. Là aussi, on va essayer de sortir un petit peu des sentiers battus, si on peut, hein, pour essayer d'apporter un petit peu de nouveauté. Parce que bon, si on fait toujours la même. Si on fait la même chose que les autres, bah, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Surtout que souvent les autres bah, le font mieux que nous. Ça arrive aussi. Donc
Oui, ça arrive
oui,
beaucoup,
ça
hein.
arrive
Bon.
beaucoup. Donc autant pas refaire quelque chose de moins bien derrière.
Exactement. Ou alors se mettre à attaquer des films que tout le monde aime.
C'est ça.
C'est ça. Voilà. Bah partez, allez écouter le Corbeau dans son fameux Jugement dernier. Il essaye de s'attaquer à Commando
Vaste tâche.
face à vaste tâche, surtout face à l'équipe de VHS et
Ah, ils
Canapé.
étaient bien remontés. Voilà.
Ah bah c'est des ayatollahs de
Ah,
Commando, donc
je dois
fatalement.
admettre. Bon, tu couperas peut-être ça au montage. Hein. On s'est fait plier. Hein. Franchement, on s'est fait plier.
Je vous laisserai seul juge, allez écouter l'émission. En tout cas, vous passerez un excellent moment. Et moi, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Je sais pas quand vous écoutez ce podcast. Je vous dis rendez-vous à bientôt pour un nouveau numéro avec le Corbeau, puis aussi un nouveau numéro du Sci-Fi Club, toujours sur le BMC. Je suis l'Ours Martin. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @l'oursmartin. Retrouvez toutes les chroniques du BMC, Berserkers Media Chronics. Vous pouvez retrouver aussi toutes nos émissions sur PodCloud, sur Bad Geek, et également les productions de notre cher président Dylan D. Malone, sa web série ainsi que toute sa chaîne YouTube, là où il traite avec notamment, bah, j'allais dire, je sais même plus combien d'invités maintenant, il en a plein, mais il parle surtout lui beaucoup de comics ces derniers temps. Allez-y, vraiment, si c'est votre kiff. Corbeau, je te dis à bientôt.
Et le plus tôt possible, ça.
Et le plus tôt possible. Allez, bye bye tout le monde.
Bonne soirée.